allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 30 mars 2023, est une journée particulière pour moi à plus d'un titre. C'est l'anniversaire de mon plus jeune enfant, François-Alexandre. Le même jour est celui de la naissance de ma mère, aujourd'hui de regrettée mémoire. À l'un et à l'autre, ainsi qu'à celles et ceux qui ont leur fête aujourd'hui, je souhaite le meilleur qu'ils se souhaitent à eux-mêmes. Notre émission radio d'aujourd'hui évoque un sujet sérieux, malheureusement assez peu discuté, mourir dans la dignité. Une conversation sérieuse de notre point de vue et qui devrait de ce fait bénéficier de davantage de contributions individuelles et collectives. Notre propos du jour évoquera surtout les 7 questions sur le sujet de mourir dans la dignité, déjà comme concrétisation de la réflexion menée au Québec par le gouvernement du Québec. Le fait de penser la mort, si nous avons du temps, quelques opinions sous la coordination de Vladimir Yankelevitch. Tout de suite, mettons la table avec Luc de la Rochelière, si fragile.
On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et si Sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile.
Dans la foulée des événements médiatiques de 2009 concernant l'euthanasie, l'Assemblée nationale du Québec a créé la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Le mandat de cette commission comportait deux volets qui consistaient à entendre des experts, puis à rédiger un document de réflexion servant de base aux audiences publiques qui se tiendraient à l'automne 2010. À la demande de la commission spéciale, la commission de l'éthique, de la science et de la technologie, CEST, a participé à la rédaction du document de réflexion. Par la suite, elle a voulu contribuer à la réflexion collective en produisant au début de l'été 2010 un premier texte qui se veut un document de réflexion intitulé « Mourir dans la dignité », des précisions sur les termes et quelques enjeux éthiques. Faisant suite à ce premier texte, ce deuxième document de réflexion soulève des questions que pourrait se poser une personne intéressée par la dimension éthique de la fin de vie. La CEST n'y prend pas position, mais présente une série de questions qu'elle juge pertinentes pour nourrir la réflexion et le débat. La notion de fin de vie renvoie à une situation qui nous touche tous puisque la mort est l'aboutissement ultime de l'existence. Par conséquent, les conditions dans lesquelles se déroule la fin de vie débordent les seules questions d'euthanasie et d'aide au suicide. La dimension éthique à laquelle la commission fait référence vise un aspect du débat sur la fin de vie qui est à la fois souvent invoqué mais peu expliqué et laissé dans l'ombre au profit du légal, du techno-médical ou de la déontologie. Or, comme plusieurs experts l'ont souligné à la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, l'euthanasie et l'aide au suicide, dépassent ces seules dimensions. L'éthique peut contribuer à penser ensemble ces questions et à réfléchir sur les choix qu'une personne ou une société fait. Elle se veut une réflexion critique sur les finalités de nos actions. Pourquoi agissons-nous de telle ou telle manière? Quelles sont les valeurs sous-jacentes à nos actions, celles qui les guident? Quels sont les critères favorisant une vie bonne pour soi et bonne envers les autres humains? Ce document énonce donc cette question et explique en quoi elles sont importantes dans le débat sur la fin de vie, l'euthanasie et l'aide au suicide. Les explications sont courtes puisqu'elles s'appuient en grande partie sur le premier document de la CEST. Comme la finalité du document est d'accompagner la réflexion personnelle, la CEST n'entend pas proposer de réponse, mais plutôt présenter des pistes de réflexion. Et c'est pourquoi le document, en fait, intéresse Son de Cloche, qui va le partager avec vous aujourd'hui.
Thank you.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi. Qu'est-ce que la fin de vie? Première question. On oublie souvent de se demander ce qu'est la fin de vie. Cette interrogation d'apparence simple est pourtant fondamentale dans la question de mourir dans la dignité. Qu'est-ce que mourir? Quand meurt-on? Pour les personnes en faveur de l'euthanasie ou de l'aide au suicide, la réponse indique à quel moment ces gestes pourraient avoir lieu. Pour plusieurs, mourir est l'instant de la mort. Or, il faut distinguer l'instant de la mort et le processus du mourir. En effet, la mort correspond à un moment précis. La vie s'arrête. Au Québec, ce moment est déterminé par les arrêts complets et définitifs des fonctions cardio-respiratoires et des fonctions cérébrales, appelées également décès neurologiques. Mourir constitue un processus qui mène certes à la mort, mais qui requiert un certain temps et comporte plusieurs étapes caractérisées par divers états physiques et psychologiques. Ainsi, qu'est-ce que la fin de vie ? Pour certains, elle débute dès notre naissance. Pour d'autres, plusieurs réponses s'offrent. La fin de vie correspond à un instant, ou encore elle est un processus qui s'étire selon une durée variable. Elle est liée à un âge précis ou à une tranche d'âge. Dans ce cas, à quel âge ou à quelle tranche d'âge? Elle est liée à une condition médicale. Mort imminente et inévitable. Est-il alors question de minutes, d'heures? Annonce d'une maladie neurodégénérative ou d'un cancer. Phase avancée d'une maladie neurodégénérative ou phase terminale d'un cancer. Déclin de l'autonomie fonctionnelle. Perte importante de l'autonomie fonctionnelle. Elle est liée au résultat d'une réflexion morale et spirituelle sur sa vie. Elle est liée à une prise de conscience déclenchée par l'annonce d'une maladie grave ou de la mort d'autrui. Il n'y a donc pas de réponse unique. Deux personnes aux prises avec la même maladie, au même stade, ne donneront probablement pas la même réponse. De même, une personne en santé peut répondre d'une certaine façon actuellement, mais sa réponse risque de changer lorsqu'elle sera âgée ou confrontée à une maladie. Enfin, la personne âgée ou malade ne partagera possiblement pas l'opinion de son entourage la concernant. La réponse à la question « Qu'est-ce que la fin de vie ?» permet de situer le moment où la dignité entre en jeu dans l'expression « mourir dans la dignité ». Elle conditionne par le fait même les moyens à prendre pour s'assurer que la fin de vie se déroule dans la dignité. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi. Deuxième question, de quelle dignité parle-t-on? L'expression « mourir dans la dignité » laisse sous-entendre qu'au Québec, les gens peuvent mourir dans l'absence de dignité, voire dans l'indignité. Ainsi, la notion de dignité apparaît centrale dans le débat actuel sur l'euthanasie, l'aide au suicide et la fin de vie en général. Toutefois, que l'on soit en faveur ou en défaveur d'une aide active à mourir, euthanasie et aide au suicide, tous s'entendent sur l'importance de préserver la dignité chez les personnes en fin de vie. Mais de quelle dignité parle-t-on ? S'agit-il de dignité objective? Selon cette conception de la dignité, le fait même d'être un être humain confère une dignité en soi. Il s'agit d'une dignité intrinsèque qui entraîne un respect absolu de la personne, peu importe sa condition physique ou mentale. Cette dignité objective s'apparente au caractère sacré de la vie, quelle que soit l'approche adoptée, religieuse, laïque, philosophique ou politique. S'agit-il de dignité subjective? Dans cette conception de la dignité, c'est la personne, et elle seule, qui juge de sa propre dignité. Ainsi, au nom de son autonomie, elle définit les modalités permettant que sa vie et sa mort soient dignes à ses yeux. Difficilement conciliable, la dignité objective et la dignité subjective sont à la base des débats sur l'euthanasie et l'aide au suicide. Le même terme, dignité, est utilisé, mais la confusion règne puisque les interprétations sont différentes, s'opposant même. De plus, il faut ajouter que certaines personnes favorisant la conception subjective de la dignité font plutôt référence à l'autonomie morale ou autodétermination, capacité de faire ses propres choix, ou à l'estime de soi, image que la personne a d'elle-même, ce qui entretient d'autant la confusion dans les discussions. Ainsi, en appeler à la dignité, valeur importante pour la société québécoise et centrale à la question de fin de vie, conduit à un dilemme. Tous s'en réclament, mais peu s'entendent sur le sens à lui donner et les interprétations sont inconciliables. Si l'on favorise l'une des conceptions, on perd l'autre. Par conséquent, est-ce le bon terme à utiliser? Pourrait-il être remplacé par un autre? Lequel?
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchy.
Il est 10h16, 27 secondes. Nous sommes le 30 mars de l'an de grâce 2023. Question 3. Quel est notre rapport à la mort? Le rapport à la mort soulève les questions des limites à nos actions, du sens que l'on donne à la vie ainsi que de notre fin. Auparavant, maladie et mort faisaient partie du quotidien des gens. Ceux-ci naissaient, vivaient, étaient malades, mouraient et leurs dépouilles étaient exposées à la maison. La religion fournissait les repères nécessaires pour accepter les douleurs impossibles à soulager en promettant un monde meilleur après la mort. De nos jours, les repères religieux ont perdu de l'importance et en même temps les avancées en médecine et en pharmacologie permettent de soulager, voire guérir des maladies et même repousser les limites de la mort. Les gens meurent pour la plupart dans les hôpitaux. Plusieurs personnes ne côtoient la mort que dans les salons funéraires, lorsqu'il y a exposition de la dépouille. Une fois le défunt maquillé et habillé, s'ajoute à cela l'éloge de la jeunesse permanente et la promotion des valeurs de performance et de productivité introduites par la génération des baby-boomers qui ont contribué à la naissance d'un nouveau paradigme. Ces derniers ont cru pouvoir éloigner la maladie, les souffrances et les douleurs, et même la mort. Avec le vieillissement des baby-boomers, le rapport à la mort se modifie et ce paradigme est aujourd'hui remis en question. Jamais nous n'avons autant parlé de la mort, notamment dans les journaux, les reportages télévisés, les films. Dans le discours institutionnel sur la santé, sur la place publique, avec la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, dans les requêtes demandant à vivre sa fin de vie au domicile, dans les démarches vers une acceptation sociale du deuil. Ces nombreux et récents changements sont susceptibles de se refléter de multiples manières, dans les représentations symboliques et les comportements. De quelle façon ces changements sociaux influencent-ils les notions de dignité et de fin de vie? Du point de vue sociétal, en quoi notre rapport à la mort est-il modifié? Comment les personnes malades ou mourantes vivent-elles dorénavant ces moments? Comment la vulnérabilité physique et émotionnelle qui découle de la maladie ou de l'approche de la mort est-elle vécue? Pour la famille et les proches, est-ce que le fait d'être moins exposé à ces situations favorise l'intolérance, le malaise, la difficulté d'y faire face, la détresse, un questionnement imprévu sur leur propre fin, etc.?
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi.
Question 4. Quelles valeurs seraient à prioriser afin d'assurer une mort digne? Une valeur, c'est ce qui donne le sens à l'action. C'est elle qui permet de justifier l'action. But à atteindre, finalité d'une action. La valeur renvoie à ce qu'une personne ou une population donnée désire atteindre et promouvoir ou encore protéger. Il arrive parfois que plusieurs valeurs puissent être sous-jacentes à une même action. Il existe des valeurs propres à chaque personne, à chaque groupe et à chaque société. Certaines peuvent être communes à plusieurs individus et groupes ainsi qu'à diverses sociétés. Pourquoi des valeurs sont-elles présentes et d'autres non? Pourquoi les valeurs ont-elles des poids différents et pourquoi leur définition varie-t-elle sur le plan individuel? Les valeurs sont influencées entre autres par l'éducation, la personnalité, la famille, les groupes d'appartenance, la société et les expériences de vie. Les valeurs présentes dans une société dépendent notamment de son histoire, de sa culture, de ses citoyens et de ses leaders. Dans les débats sur le mourir dans la dignité, des références sont couramment faites à la dignité, mais également à d'autres valeurs. Ainsi, les personnes qui sont en faveur de la dignité objective invoquent souvent le caractère sacré de la vie, la protection des personnes vulnérables, l'accession des soins, l'accessibilité des soins, la solidarité, l'intérêt commun. Celles qui privilégient la dignité subjective réfèrent régulièrement à l'autonomie morale, autodétermination, à la qualité de vie, à la liberté, à la performance, maîtrise de tous les aspects de sa vie, à la discrimination. Plusieurs valeurs sont communes aux deux conceptions de la dignité dont la compassion, la responsabilité de l'État, l'autonomie du professionnel en santé et services sociaux, la responsabilité professionnelle, professionnelle en santé et services sociaux. Certaines valeurs peuvent se décliner de diverses façons. Il en est ainsi de la dignité et du caractère sacré de la vie. Elles peuvent aussi se retrouver dans plus d'un enjeu éthique. Ainsi, la valeur autonomie est présente notamment dans la demande d'aide à mourir, dans le choix de l'endroit de fin de vie, dans l'expression des volontés de fin de vie. Également, certains constituent des valeurs parapluies, c'est-à-dire qu'elles en englobent d'autres. Par exemple, la valeur protection des personnes vulnérables peut inclure l'équité, la solidarité et l'accessibilité aux soins. Dans une situation donnée, ce sont les valeurs en présence ou l'interprétation qu'on en fait qui suscitent les dilemmes éthiques ou conflits de valeurs. Ainsi, accorder la préférence à une valeur ou à une interprétation peut donner l'impression que l'autre ou les autres n'ont pas d'importance. Comment résoudre ces conflits, souvent déchirants, dans le cadre d'une société démocratique et pluraliste? Deux choix s'offrent, le relativisme éthique et l'évaluation éthique. Relativisme éthique. Dans cette école de pensée, les valeurs sont mises au même niveau. Faute de pouvoir être hiérarchisées au moyen de critères communs et respectées par tous, elles s'équivalent. Toutes les valeurs ayant un poids égal, le dilemme ne peut être véritablement résolu et la situation conflictuelle perdurera. L'évaluation éthique ou délibération éthique. Il s'agit d'un processus de délibération qui permet de prendre une décision. Parmi les étapes de ce processus se trouve celle de l'identification et de la clarification des valeurs en présence. Suit une priorisation, hiérarchisation entre ces valeurs, c'est-à-dire qu'une ou plusieurs sont privilégiées. Celles qui ne le sont pas ne doivent pas être oubliées pour autant, puisqu'elles revêtent assez d'importance aux yeux de certaines personnes pour avoir nécessité un débat et possiblement pour rendre difficile la hiérarchisation et l'acceptation de la décision. Un des grands défis est donc d'expliquer la décision et de proposer également des moyens pour tenir compte des valeurs secondaires. La commission de l'éthique, de la science et de la technologie a adopté formellement l'évaluation éthique en fonction des valeurs dès 2003 pour l'élaboration de ses avis. Comme il ne s'agit pas pour la commission de prendre position dans ce document de réflexion, elle ne propose pas de priorisation de valeurs. Toutefois, dans cet esprit, elle trouve important que la population québécoise réfléchisse aux questions suivantes. Quelles sont les valeurs en jeu afin d'assurer à la personne une mort digne? Lesquelles devraient être priorisées et selon quels critères? Prenons une transition musicale. Suivi d'une pause publicitaire, nous vous revenons tout juste après.
J'aurais du fun à backpacker malgré la fois que je me suis fait braquer. Absolument rien à voir avec la naïveté. C'est sûr que quand tu pèses pas 150 livres mouillés, tu fais clairement pas le bois devant quelqu'un armé. J'aurais automatiquement voulu dire non. Mais quand j'ai vu son automatique, j'ai automatiquement entendu raison. C'est là que tu dis des abonnés and a ballon. C'est du sketchy qui sort coudon. Joues-tu au foie jaune? Oh ben non, j'y sors un 14. Oh ben non, j'y sors un 14. Yeah! Un jour que je mangeais des têtes de poule en brochette avec ceux que je croyais mes chums, j'étais traîné d'un 5 à 7 supposé pour avoir du fun, une moto vache de force dans mes poches, on me demandait tout mon cash. Classique comme crossé sur qu'appuyer sur la crosse d'un gros calibre, le crosseur est bien plus crédible. Dans la bouche de ces canons, les arguments sont plus béton. J'ai pas pu faire grand chose, j'ai filé tous mes pesos. Il m'a dit on sait où tu restes, j'ai pogné le premier train pour Manila sans laisser d'adresse. Sérieux, faudra peut-être voir la réalité en face. On se pas d'être trop futé, d'être trop perspicace. Pour savoir qu'on file de sel, qu'on file d'où sous la menace. Un fusil chargé à bloc du normal loadé dans ta face. Avec un gun, ça tombe avec un canon dans le front, me semble. C'est dur de dire non. Sérieux, c'est la triche, pour m'assurer plus persuasif. Fais-tu argument plus massue, car fais-moi tomber ou je te tue. Alors fais-moi tomber ou je te tue. N'aurait dû fun à Wabang, sur Wotan, si belle gang, à jouer des jeux de boissons, écoute la garnison. Avec le chef, la milice, son beau-père est sur la table, pas de place pour les caprices à boy, même si t'es plus capable, j'aurais automatiquement voulu dire non. Mais quand j'ai vu son automatique, j'ai automatiquement entendu raison. Ça pouvait pas être plus illégal de rentrer d'un pays par la jungle, sur ton demande si t'as peur des balles, fais ton top, prends ta gueule. Fais ton top, prends ta gueule. Ta gueule!
Une distance de 20 verres. La coupe vanille au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur.
Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinquième question. Y a-t-il des limites éthiquement justifiables à l'autonomie morale, autodétermination? L'autonomie morale, comprise comme autodétermination, est la capacité d'une personne à agir conformément à ce que lui dicte sa conscience ou sa raison, et donc à déterminer elle-même les règles morales auxquelles elle se soumet. Le premier document produit par la Commission sur le mourir dans la dignité a montré que l'autonomie morale est une valeur phare dans notre société. Elle est également mise en avant dans les chartes des droits et libertés du Canada et du Québec, de même que dans la jurisprudence. Par conséquent, il tombe sous le sens que la capacité de décider pour soi et d'être maître de ses choix de vie subsiste lorsqu'il est question de déterminer les conditions de sa fin de vie. Pour certains, cela va jusqu'à inclure le choix du moment de la mort. En effet, selon quels critères peut-on refuser à une personne lucide demandant l'euthanasie ou une aide au suicide de l'obtenir? Cette question ouvre sur d'autres tout aussi importantes. Toute personne capable d'autodétermination pourrait-elle avoir accès à l'euthanasie ou à l'aide au suicide? Faudrait-il limiter l'accès aux maladies incurables? Faudrait-il limiter l'accès à certains cas, maladies neurodégénératives, handicap, maladies chroniques, y compris certaines formes de cancer? Faudrait-il accepter toutes les formes de maladies neurodégénératives, de handicap, de maladies chroniques? Faudrait-il atteindre des phases avancées des maladies, des phases terminales? Faudrait-il être majeur? Si oui, que fait-on des adolescents souffrant des mêmes maladies que les adultes? L'être humain vit également en société et en interaction avec d'autres personnes. Dès lors, est-ce que exercer son autonomie risque d'entraîner des conséquences pour autrui? Par exemple, en changeant le regard porté sur les gens qui souffrent de la même maladie, mais qui ne revendiquent pas une aide active à mourir, euthanasie ou aide au suicide. Ou encore, comme certains le redoutent, en réduisant l'offre de soins et de services pour les personnes en fin de vie, si l'euthanasie ou l'aide au suicide était légalisée. L'affirmation du droit à l'autodétermination, autonomie morale, est un élément central du débat sur la fin de vie, l'euthanasie et l'aide au suicide. Il importe de souligner que les personnes en faveur de cette position reconnaissent souvent qu'il doit y avoir des balises afin d'éviter des abus et des dérives. L'idée de limite à l'autodétermination semble donc être acceptable pour la majorité des experts et des citoyens québécois. La question se pose donc, y a-t-il des limites à l'autonomie morale, autodétermination? Quelles seraient ces limites et comment les justifier éthiquement?
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchy.
Comment répondre collectivement aux besoins des personnes en fin de vie? Bien que la fin de vie concerne la personne au premier plan, c'est en fait toute la société. qui est touché par les conditions de fin de vie de ses citoyens. Il faut ajouter que ces questions se poseront avec plus d'acuité dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population québécoise. Les besoins dans les situations de maladie ou de fin de vie sont nombreux. Soins médicaux, infirmiers, nutritionnels, pharmacologiques, psychosociaux, spirituels, des réadaptations, loisirs, soins palliatifs, offre de soins à domicile, disponibilité de lits dans les établissements spécialisés, etc. Plusieurs des besoins mentionnés concernent le réseau de la santé et des services sociaux. Le vieillissement de la population associé à la pénurie de personnel qualifié et aux ressources financières qui sont de plus en plus réduites posera des défis énormes. La réorganisation du réseau nécessitera un changement de culture, tant dans la structure du réseau qu'au sein des corporations professionnelles. En effet, selon plusieurs experts, l'offre en soins palliatifs doit être repensée afin de correspondre à la réalité des besoins et être déployée sur tout le territoire du Québec. Il faut, selon ces experts, inclure cette offre de service dans la planification des soins dès l'annonce d'une maladie qui peut nécessiter le recours aux soins palliatifs. Cette offre de soins doit être centrée sur la qualité de vie de la personne, ce qui implique notamment de ne pas attendre la phase terminale ou très avancée de la maladie, mais d'offrir des soins dès que les douleurs et les souffrances peuvent être soulagées. Il faudrait également que les professionnels de la santé et des services sociaux reçoivent une formation sur la douleur et l'accompagnement en fin de vie durant leur cursus scolaire et tout au long de leur parcours professionnel. Il faut aussi prendre en compte les besoins financiers des personnes souffrantes et de leur entourage. Un accident ou une maladie grave apporte souvent des bouleversements sur le plan financier. Être hospitalisé. Contrôler la maladie ou la douleur, s'adapter à l'évolution de la maladie, vivre la convalescence ou la réadaptation, entrer dans la fin de sa vie représente des pertes de revenus. Ces événements entraînent aussi des coûts tels que la franchise des médicaments ou le recours à des services privés ou partiellement couverts par une assurance. Ces coûts sont particulièrement élevés pour les soins à domicile au Québec. En effet, les médicaments et plusieurs soins sont offerts sans frais lorsque les personnes sont hospitalisées. Mais une fois revenues à domicile, celles-ci doivent les payer. Enfin, il faut souligner la contribution d'une nouvelle catégorie de soignants, les aidants naturels. Ces personnes, le conjoint ou la conjointe, les parents, les enfants, les amis, peuvent avoir besoin d'aide financière, humaine ou psychologique. La liste des besoins est longue. Quels sont les meilleurs moyens d'y répondre? Comment tenir compte de la singularité des personnes et de leur état physique et mental quand les situations sont multiples et les ressources collectives limitées? La société doit-elle collectivement satisfaire à toutes les demandes? Sinon, quels seraient les besoins à couvrir par le réseau de la santé et des services sociaux?
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Béchy.
À quelle fin? Question 7. À quelle fin et à quelles conditions l'euthanasie ou l'aide au suicide serait-elle éthiquement justifiée ou injustifiée? La CEST aborde le cœur du débat actuel en privilégiant la dimension éthique. Elle considère que l'aspect éthique lié à l'euthanasie et à l'aide au suicide pose peu de problèmes puisque les techniques médicales et médicamenteuses sont connues. En outre, elle constate que les services d'accompagnement des personnes mourantes et de leurs proches sont parfois offerts dans différents milieux et par plusieurs corps professionnels, accompagnement psychologique et spirituel. Elle juge toutefois qu'au-delà des techniques disponibles, les questions de fond demeurent. En effet, l'existence de ces techniques n'est pas une raison suffisante en soi pour justifier leur usage. Puisque les techniques sont des moyens pour atteindre une fin, la CEST croit qu'il faut s'interroger sur celle-ci. Ce n'est qu'une fois la fin déterminée que survient la question des moyens permettant d'atteindre cette fin. Se pose ensuite la question des critères qui justifient ces moyens. Il importe donc de réfléchir aux finalités des actes d'euthanasie et d'aide au suicide, puis aux conditions qui permettraient d'atteindre ces finalités. Toutefois, dans l'hypothèse où l'euthanasie ou l'aide au suicide serait légalisée, la CEST pose une condition incontournable. Toute personne ayant fait une demande d'euthanasie ou d'aide au suicide qui aurait été acceptée doit, en tout temps, avoir le droit de changer d'avis sans être jugé négativement ni subir de pression de quiconque. La fin visée dans la demande d'euthanasie et d'aide au suicide. La fin visée dans la demande est-elle de ne pas souffrir? Est-elle de ne pas perdre son autonomie fonctionnelle? Est-elle de conserver sa dignité subjective? Est-elle de voir son autonomie morale respectée? Est-elle de ne pas représenter un fardeau pour ses enfants ou pour la société?
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Becci.
Un autre point de questionnement très important. L'encadrement dans l'hypothèse où l'euthanasie et l'aide au suicide seraient légalisées ou décriminalisées. Pour quelles conditions physiques et mentales? Mort imminente, phase terminale, stade avancé d'une maladie neurodégénérative, handicap lourd, perte marquée de l'autonomie fonctionnelle, dépression chronique, douleur physique, souffrance psychologique, spirituelle, existentielle, surdemande, etc. Pour qui? Tous ceux qui présentent les conditions physiques et mentales retenues, seulement les personnes majeures, seulement les personnes aptes, etc. Par qui? Médecins, infirmières, pharmaciens, autres professionnels de la santé et des services sociaux, proches de la personne, etc. Ou hôpitaux, CHSLD, à domicile, selon le choix de la personne, etc. Quand? Au moment décidé par la personne. Selon la disponibilité de la personne qui procède à l'euthanasie ou à l'aide au suicide, avec possibilité de reporter le moment, etc. La fin visée dans le refus de la demande d'euthanasie et d'aide au suicide. La fin visée dans le cas du refus est-elle de préserver la dignité objective? Est-elle de respecter le caractère sacré de la vie? Est-elle de rappeler la responsabilité de l'État de protéger une personne vulnérable? Est-elle de craindre les erreurs, les abus? Autre point important. L'encadrement dans l'hypothèse où l'euthanasie et l'aide au suicide demeureraient illégales. Le cadre légal demeurerait le même puisque ces deux gestes sont illégaux. Au Canada perdure le consensus voulant que la vie humaine doive être respectée. L'interdiction de l'euthanasie et de l'aide au suicide sert l'objectif du gouvernement de protéger la vie, et particulièrement de protéger la personne vulnérable. elle traduit la finalité qu'on ne peut dévaloriser la valeur de la vie humaine en permettant de l'ôter. Toutefois, il faut souligner que la littérature, les propos des experts et les témoignages tendent tous vers un même constat, autant dans l'hypothèse du statu quo que dans celle de la légalisation, des changements réglementaires, structuraux et sociaux apparaissent nécessaires. La force et la persistance des débats entourant l'euthanasie, l'aide au suicide, les conditions de fin de vie et les appels à la dignité montrent sans équivoque que la situation actuelle n'est plus tenable. La justification éthique en faveur ou en défaveur de l'euthanasie et de l'aide au suicide est un exercice complexe. Bien sûr, il existe des finalités qui fondamentalement rendent justifiable ou injustifiable sur le plan éthique les deux pratiques. Cependant, ces situations demeurent assez rares. De façon générale, lorsqu'il est temps de choisir et de justifier la finalité et les conditions d'application, d'autres valeurs et enjeux éthiques peuvent entrer en ligne de compte et ébranler la position initiale. Par ailleurs, imaginons les trois situations suivantes. Point 1. Si la finalité poursuivie est de ne pas souffrir, il faudrait que l'euthanasie soit offerte pour toute personne souffrante dont la condition est incurable. Nouveau-né, enfant, adolescent, majeur apte, majeur inapte. Toutefois, l'expression de la volonté et la capacité de prendre des décisions sont primordiales afin d'éviter des abus. Or, les nouveau-nés, les jeunes enfants et certaines personnes inaptes ne remplissent pas ces conditions. Restreindre l'accès à l'euthanasie signifierait que certaines personnes vont souffrir, même si leur état de santé est sans issue et les restrictions vont faire en sorte que la finalité ne sera pas atteinte. Deuxième point. Si la finalité poursuivie est de respecter l'autonomie morale, le moment, l'endroit et l'individu qui posera le geste de l'euthanasie ou l'aide au suicide devraient être laissés au seul choix de la personne en fin de vie. Respecter cette finalité se traduirait par des demandes absolument individualisées. Dès lors, il faudrait trouver des aménagements en matière de responsabilité professionnelle et, dans un contexte de ressources financières et humaines limitées, organiser le réseau pour favoriser la souplesse requise. Troisième point. Si la finalité poursuivie est de respecter l'autonomie morale de la personne en fin de vie, qu'en est-il de l'autonomie morale de la personne qui pose le geste? Sera-t-elle respectée? Si cela va à l'encontre des valeurs de l'individu, il est possible que la souffrance, le désespoir et même un chantage moral de la part de la personne en fin de vie pousse l'individu à agir contre sa volonté. Cet enjeu éthique est encore plus crucial et déchirant si l'individu qui fait le geste est proche de la personne en fin de vie.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi.
L'argument de la pente glissante. Avant de mettre un terme à la question de la justification éthique, il est pertinent d'aborder le risque des dérives soulevées tant par les personnes opposées à l'euthanasie et de l'aide au suicide que par les gens qui y sont favorables. Il s'agit de l'argument de la pente glissante, « slippery slope ». Selon cet argument, une action entraîne inévitablement une conséquence négative, voire désastreuse. Par conséquent, il ne faut pas permettre cette action afin d'éviter la conséquence qui est jugée inacceptable sur le plan éthique. Pour ceux qui sont contre l'euthanasie ou l'aide au suicide, aucun engagement légal ne pourra éviter que surviennent des dérives. Par exemple, ils croient que si l'euthanasie est permise uniquement pour les personnes adultes aptes, on ne pourra empêcher qu'elle soit un jour autorisée pour des personnes mineures ou des adultes inaptes. Par contre, certains avancent que les changements de conditions pour lesquels l'euthanasie et l'aide au suicide seraient permises reflèteraient davantage l'évolution d'une société. D'autres, favorisant la légalisation de l'euthanasie, font valoir que si le statu quo est maintenu, l'euthanasie clandestine prendra de l'ampleur. Cette pratique existerait, mais il n'y a pas de données à l'appui de cette affirmation, ce qui peut s'expliquer par l'illégalité du geste. Et les raisons pour lesquelles elle augmenterait sont rarement avancées. En éthique, l'argument de la pente glissante est très critiqué. La faiblesse de cet argument est qu'il est difficile de confirmer les conséquences négatives anticipées. Le lien causal est l'inéluctable venue des conséquences. La réalité est complexe. De multiples événements et facteurs sociaux, économiques, environnementaux existent et interagissent d'une façon qui est rarement prévisible. Établir avec certitude un lien de cause à effet entre un geste actuel et une conséquence future est ardu, voire impossible. Pour autant, les craintes de dérive ne sont pas à rejeter automatiquement. Il s'agit plutôt de présenter des arguments d'une autre nature.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Son de cloche, tous les jeudis de 10h à 11h, sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Becci.
Ni le soleil, ni la mort ne peuvent se regarder en face. C'est Héraclite. La fin de vie est un sujet complexe, délicat et intime. La mort sera toujours difficile à envisager, autant pour soi que pour autrui. Mourir est un processus qui impose des pertes. D'abord, il va de soi pour la personne qui doit vivre plusieurs deuils. Rêves, projets, souvenirs, capacités physiques et mentales, etc. Mais les pertes et les deuils doivent et sont également ressentis par les proches qui voient souffrir, espérer et lutter un être cher désormais diminué et qui, à la fin du processus, doivent se préparer à vivre sans cette personne. Le débat est émotif et ne laisse personne indifférent, puisque l'étape ultime est inévitable. Nul ne souhaite qu'elle se déroule dans la douleur, la souffrance et l'isolement. Pourtant, malgré les avancées en médecine et en pharmacologie, malgré les soins offerts par le système de santé et des services sociaux québécois, il y a certains cas où la fin de vie est insoutenable. C'est ainsi que certaines personnes, leurs proches ou des soignants en viennent à réclamer une mort digne. Ils en appellent alors à l'euthanasie ou à l'aide au suicide. Mourir dans la dignité. Devant la confusion entourant cette expression, on peut se demander si la requête ne cache pas une autre réalité. Que réclament vraiment les gens qui l'invoquent? Depuis plusieurs années, la question de la légalisation ou de la décriminalisation de l'euthanasie et de l'aide au suicide semble au cœur de la demande. Toutefois, la Commission de l'éthique, de la science et de la technologie croit qu'il faut réfléchir collectivement à cette demande de mourir dans la dignité en élargissant le débat aux conditions de fin de vie. En effet, si l'euthanasie et l'aide au suicide peuvent être des gestes à légaliser, la fin de vie dépasse ces deux seuls gestes. Ainsi, remettre en question les soins de confort et de soutien, autant pour ceux dont la mort est imminente que pour ceux dont la fin est inéluctable mais lointaine, fait partie intégrante du débat. Comme revoir l'offre de soins, notamment la dispensation des soins palliatifs et les soins à domicile, sans oublier les soins non médicaux tels les psychothérapies, le soutien qui peut être apporté au plan spirituel, les réseaux sociaux, ou repenser collectivement les notions de souffrance, de maladie, de handicap et de mort. Sur les plans individuels, la CEST appelle à un exercice critique de réflexion sur les valeurs, les normes, les règles et les comportements qui se trouvent au cœur du débat sur la fin de vie. Cet exercice prendrait en compte la complexité de la question de fin de vie et viserait à s'assurer que les gens meurent dans la dignité au Québec. Il permettrait sans doute à la majorité des personnes mourantes d'avoir accès à des conditions dignes de fin de vie. Cette réflexion pourrait néanmoins ne pas résoudre entièrement et de façon satisfaisante les situations où la fin de vie est intolérable. Pour cette minorité de personnes, il faudra poursuivre la réflexion et se demander si la légalisation ou la décriminalisation de l'euthanasie ou de l'aide au suicide représente la bonne réponse au vœu de mourir dans la dignité. Écoutons Joan Baez, Blowing in the Wind.
Écoute la réponse dans le vent. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort, weiß ganz allein der Wind.
Bon jeudi et à jeudi prochain.
La respuesta, mi amigo, está sonando en el viento.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex.
Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
À conduite antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cherche un appart à 2 minutes de l'Université Laval, on a quelque chose pour toi. Dès le 1er septembre, l'Util ouvre ses portes de son premier immeuble à Québec, dans le quartier Sainte-Foy. Le concept, 205 apparts dédiés aux étudiants et étudiantes, un proprio à but non lucratif qui a comme mission d'offrir du logement abordable à